La rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Une émission spéciale consacrée aux Templiers, dont on a souvent entendu parler, en particulier quand il y a eu les événements tragiques en Suisse et particulièrement ici, n'est-ce pas? Avec l'ordre du Temple solaire. Mais ça n'a rien à voir. Les Templiers, c'est vraiment tout autre chose, vous allez voir. C'est sérieux. Et je vais vous parler de leur origine, de leur spiritualité, d'après Régine Pernoud. Régine Pernoud, qui est une spécialiste du Moyen-Âge, que j'avais interviewée à Rencontre, à la télévision, une femme ardente, une chartiste, une spécialiste du Moyen-Âge, vraiment, là, et qui s'est penchée sur cette question et qui a écrit dans le Dictionnaire de spiritualité un article très important, entre autres. Et je vais développer aussi avec Ian Wilson l'aspect des Templiers puis du Saint-Suaire de Turin. Car on croit bien de plus en plus que c'est grâce aux Templiers que le Saint-Suaire, le linceul du Christ, a été finalement sauvé d'une catastrophe à peu près sûre. Les Templiers, ou si vous voulez l'Ordre du Temple, c'est leur vrai nom, ce sont des moines chevaliers. Étrange, des moines chevaliers. Vous dites que les chevaliers, vous savez ça, au Moyen-Âge, c'est extrêmement important, la chevalerie. Alors, ce sont donc des moines chevaliers qui apparaissent en Terre Sainte. Pourquoi en Terre Sainte? En l'an 1118 ou 1119, 20 ans donc après la reconquête de la Terre Sainte, c'est pour pouvoir garder la Terre Sainte et le tombeau du Christ en particulier, les lieux saints, aux mains des chrétiens, car ils nous avaient été enlevés par les musulmans qui sont apparus au 7e siècle, une religion nouvelle, qui ont tenu à conquérir à cheval, sont partis d'Arabie et ont conquis des tas de pays chrétiens, cherchant surtout à convertir de force les chrétiens, mais parfois les respectant. Ça dépendait des chefs musulmans. Et ces moines chevaliers qu'on appelle l'Ordre du Temple s'appellent aussi les pauvres chevaliers du Christ. C'est le nom qu'ils préfèrent, les pauvres chevaliers du Christ. Leur spiritualité, comme leur origine, leur création, c'est tellement étroitement lié aux circonstances historiques qu'on ne peut pas parler d'eux sans rappeler brièvement leur spiritualité, puis surtout les circonstances historiques. Et après la prise de Jérusalem par les chrétiens, le vendredi 15 juillet 1099, lors de la première croisade, ces croisades, c'est un nom qui leur a été donné beaucoup plus tard, c'était vraiment des pèlerinages armés. Faut bien se rappeler ça, que le terme croisade n'apparaît pas avant le 16e siècle, 1500 quelque chose. Et là, on est en l'an 1100. Et Godefroy de Bouillon, puis ses compagnons, sentent vivement à quel point il est très délicat, très précaire, le royaume latin de Jérusalem, comme on l'appelle, c'est-à-dire Jérusalem qui est devenu sous la direction des Latins qui habitent toute l'Europe est catholique à l'époque, même les pays nordiques, même la Suède, la Norvège, l'Allemagne évidemment et tout ça, l'Espagne. Et puis, ça faisait 4 siècles et demi que les musulmans occupaient ces régions sacrées pour des pèlerins. Car faut bien, c'est une civilisation de pèlerinage. C'est très difficile à comprendre pour nous qui sommes plutôt éloigné des pèlerinages aujourd'hui, bien qu'il y ait encore beaucoup de monde qui va dans des lieux de pèlerinage. Mais c'est la civilisation qui était marquée par ça. Ça a été terrible, cette occupation musulmane. Pensez que en 1009, presque 100 ans avant que les chrétiens reviennent pour prendre la possession, reprendre leur dû, eh bien, les musulmans ont détruit une partie du Saint-Sépulcre entre l'école à la rotonde de l'Anastasie, et était partiellement rebâtie après 1046. Puis il y a eu l'entrée des Turcs là-dedans aussi en 1071. Et la population de la ville sainte, comme en général de la Palestine, comporte à l'époque, malgré tout, un certain nombre de chrétiens, des Libanais, des Syriens, des Arméniens, comme on en connaît maintenant à Montréal, ce sont les descendants de ces gens-là, en bonne partie. Mais les forces armées à la disposition des Francs, qui sont, d'une certaine façon, les ancêtres d'une grande partie des Québécois de souche, comme on dit, eh bien, les forces armées restent bien dérisoires. Il y a 300 chevaliers autour de Godefroy de Bouillon en l'an 1100. Pourquoi seulement 300? Bien, parce que la grande majorité, la très grande majorité des croisés, comme on les a appelés plus tard, estiment que leur vœu accompli termine la chose. Alors, ils rentrent chez eux, comme ils le font après tout pèlerinage, hein? Parce que ce que nous appelons croisade, je vous le rappelle, c'est pour eux un pèlerinage accompli les armes à la main, par nécessité. C'est très important, je le répète. Hein? C'est très important aussi de comprendre ceci. L'évêque d'Acre, Acre c'est là-bas, Jacques de Vitry, au début du XIIIe siècle, donc vers l'an 1200 quelque chose, est particulièrement bien informé sur les Templiers. Il raconte leur début. Voici le texte. Certains chevaliers aimés de Dieu et ordonnés à son service renoncèrent au monde et se consacrèrent au Christ. Par des vœux solennels prononcés devant le patriarche de Jérusalem, ils s'engagèrent à défendre les pèlerins contre les brigands et ravisseurs, à protéger les chemins et à servir de chevalerie au souverain roi. Souverain roi, c'est Jésus. Ils observèrent, dit Jacques de Vitry, Monseigneur de Vitry, là, ils observèrent la pauvreté, la chasteté et l'obéissance selon la règle des chanoines réguliers. Leur chef étaient deux hommes vénérables, Hugues de Pince, P-A-Y-N-S, et Geoffroy de Saint-Omer. Au début, il n'y en avait que 9 qui prirent une décision si sainte. Ça a commencé tout petit, hein? Comme les apôtres avec Jésus. Au début, il n'y en avait que 9, dit le texte, qui prirent une décision si sainte, et pendant 9 ans, ils servirent en habits séculiers et se vêtirent de ce que les fidèles leur donnèrent en aumône. Alors, Hugues, de Pince, là, originaire de Pince en Champagne, comme la famille de bien des Québécois, ma famille vient de là, moi, semble être arrivé en Terre Sainte déjà âgé. Il décide de consacrer sa vie à la défense des pèlerins. Il a constaté que, j'ouvre les guillemets, des brigands et des voleurs infestaient les chemins, surprenaient les pèlerins, détroussaient un grand nombre et en massacraient beaucoup. Alors, lui et ses compagnons constituent une sorte de police de la route, quoi, qui reçoit un renfort imprévu lorsque se joint à eux le comte Hugues de Champagne, qui, en 1126, abandonne ses terres à son neveu Thibault de Brie. Il a auparavant concédé à Saint-Bernard, oui, le grand Saint-Bernard, la terre de Clairvaux. C'est de là que vient le nom, Saint-Bernard de Clairvaux. D'où l'attention que Saint-Bernard va porter à la fondation de Terre Sainte, celle des pauvres chevaliers du Christ, comme on les appelle souvent. Or, d'où vient le nom de Templier? Eh bien, ça vient du temple de Jérusalem. Oui, le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, le temple des Juifs. Comment ça? C'est que de son côté, le roi de Jérusalem, Baudouin II, fait donc d'un habitacle dans les maisons du palais qu'il avait sur le temple du Seigneur, dit le vieux texte. Le temple de Salomon, quoi, transformé en mosquée à l'Aqsa aujourd'hui, hein? C'est pas d'aujourd'hui, c'était déjà dans le temps, il y avait déjà la mosquée à l'Aqsa. Et c'est ça le problème, la mosquée est construite là où était le temple. Imaginez, s'il faut que les Juifs aujourd'hui fassent exploser cette mosquée, c'est la guerre épouvantable. Et les Juifs veulent reconstruire leur temple actuellement, au prochain siècle. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'était déjà un problème dans ce temps-là. Il y avait la mosquée à l'Aqsa. Et puis, ils avaient des constructions, là, les Templiers avaient des bâtiments qui leur venaient du roi Baudouin II. Alors, c'est là le nom de Templiers qui va leur rester. Ces Templiers ne sont encore que des séculiers. Des laïcs, quoi. En 1128, Hugues de Pince comprend la nécessité de structurer le groupe réuni autour de lui. Il se rend en Occident et le concile réuni à Troyes. Vous connaissez ça, Troyes, d'où vient Marguerite Bourgeois. Eh bien, cette année-là, là, il y a un concile, il va sanctionner la règle qui a certainement été rédigée sous l'inspiration de Saint-Bernard de Clairvaux, sinon par lui du moins, par quelqu'un de très proche selon Régine Pernoud. Et voilà donc des débuts obscurs. C'est lié à des impératifs donc de défense des lieux saints reconquis sur les musulmans et qui ne laissent absolument pas prévoir l'importance que ça va prendre à travers le temps. L'ordre du temps va devenir très important. On le voit se développer très vite. Dès 1133, on n'a pu noter qu'une foule de chevaliers venus surtout de Bourgogne rejoint ses rangs. Puis il y a des donations énormes qui commencent à affluer en Provence. Et puis dans le Languedoc, la Gascogne, la Guyenne, en Espagne, au Portugal, enfin dans l'Occident tout entier, où l'ordre, écoutez bien, va compter 9000 commanderies. 9000 sortes de monastères, de commanderies, quoi. Oui, 9000 commanderies. C'est donc comme cela qu'une spiritualité nouvelle est née. Parce que c'est une spiritualité spéciale, hein, des moines chevaliers. C'est né sous la pression des événements. Des moines prononcent les trois vœux de la vie monastique, mais avec l'objectif précis de la défense des pèlerins catholiques plus nombreux que jamais à visiter les lieux saints. Je dis catholiques parce qu'il n'y avait que des catholiques dans le temps. Depuis des orthodoxes, mais c'est vrai qu'ils nous étions déjà séparés. Et puis, depuis la reconquête donc de Jérusalem et de l'ensemble de la Palestine, évidemment aussi. Ce qui implique le maniement des armes. C'est pas facile pour des moines, hein? Donc, l'entraînement et la discipline appropriée. Alors, c'est une spiritualité inséparable, donc, de cette civilisation de pèlerinage qui caractérise les 11e et 12e et 13e siècles. Alors, l'ordre des Templiers se répand donc très rapidement. Puis, étant donné la rapide expansion, l'ordre sera bientôt divisé en provinces. Il y aura la France, l'Angleterre, le Poitou, qui était un pays, la Provence aussi, l'Aragon, le Portugal, le Pouille, dans le sud de la France, la Hongrie, pour l'Occident. Puis, la maison principale restera celle de Jérusalem, même après la perte de la ville sainte. Hein, le maître, comme on l'appelait, c'est le terme grand maître qui n'apparaît que tardivement au XIVe siècle, sera alors installé à Saint-Jean d'Acre. Et puis, il y a deux autres provinces qui sont en Terre Sainte, celle de Tripoli puis celle d'Antioche. Et le maître de la maison de Jérusalem est assisté de deux commandeurs ou précepteurs, puis le commandeur de la terre et royaume de Jérusalem, qui a sous sa garde tous les établissements de la province de ce nom, puis l'autre commandeur de la cité de Jérusalem, à qui est dévolue l'activité spécifique de l'ordre, quoi, c'est la conduite puis la défense des pèlerins de Terre Sainte, qui doivent être préservés des vols puis des persécutions, en particulier des musulmans. Car vous allez voir que ces chevaliers seront des martyrs et martyrisés par l'État. L'Église étant soumise à l'époque à l'État. C'est terrible ce qui va se passer à ces chevaliers. Terrible. On n'a pas idée. Alors, il se répand très vite cet ordre des chevaliers. Et puis, on comprend mieux la spiritualité de ces moines chevaliers à travers leurs règles, dont le prologue est clair. Voici le texte très bref du prologue. Nous parlons premièrement à tous ceux qui méprisent suivre leur propre volonté, des gens qui n'aiment pas suivre leur propre volonté, et qui désirent de pur courage servir de chevalerie au souverain roi Jésus-Christ. Nous vous admonestons, vous qui avez mené séculière chevalerie jusqu'ici, dont Jésus-Christ ne fut pas la cause, mais que vous embrassâtes seulement par humaine faveur, que vous suiviez enfin ceux que Dieu a choisis de la masse de perdition et a ordonné à la défense de son Église. Alors, il s'agit donc, comme vous voyez, d'une sorte de chevalerie supérieure. La chevalerie séculière était vouée, elle, à la défense de ceux qui ne portaient pas les armes, On défendait quoi? Les prêtres, les clercs, les paysans, les femmes, les enfants. Mais le Templier, lui, adopte un type de chevalerie qui est orienté au service de l'Église, spécialement en Terre Sainte. Il est moine, donc voué à la prière. Alors, on peut lire dans la règle, « Veillez universellement à désirer entendre matine et tout le service entièrement selon l'établissement et l'usage des maîtres réguliers de la Sainte Cité de Jérusalem. » Par quoi la règle ajoute, « Après la fin du service divin, que nul ne s'épouvante d'aller à la bataille, mais soit appareillé à la couronne, c'est-à-dire à recevoir justement la couronne du martyr, hein? Comme on vient de l'entendre dans le chant qui nous a été... qui a été joué tout à l'heure. Il est prévu que, si nécessaire, oblige laquelle chose nous croyons que souvent adviendra. Ils savent que ça va arriver souvent, le martyr. Hein? Mais ils y vont. Les chevaliers devront dire 13 pater à la place des matines, 7 autres pour chacune des heures canoniales, etc. On réduit les prières s'ils sont à la guerre, s'ils sont extrêmement occupés. Hein? Tout divertissement leur est interdit, compris la chasse. Les statuts ajoutent cette défense n'est entendue du lion, par exemple. Le lion, d'accord, vous pouvez le chasser, mais c'est tout. On lit aussi dans leurs règles, « Nulle chose n'est plus chère à Jésus-Christ que de tenir obéissance. » C'est très important pour eux. Ils doivent s'abandonner à la volonté des supérieurs qui doivent être choisis parmi les meilleurs. C'est souligné surtout à l'entrée de chaque postulant. La cérémonie comporte une belle exhortation. C'est très beau, la cérémonie. Je vous la résume, la cérémonie. Comment on devient templier? Alors, le maître dit à celui qui a demandé d'entrer comme templier, il lui dit « beau frère ». C'est bien, hein? Beau frère, ça c'est sympathique. « Vous demandez grand-chose, car de notre religion... » Vous ne voyez que l'écorce qui est dehors. Mais l'écorce, c'est que vous soyez, que vous... mon Dieu, ce téléphone qui sonne. Mais vous ne savez pas que les forts commandements qui sont par-dedans, car c'est forte chose que vous, qui êtes seigneur de vous-même, vous fassiez le serf d'autrui. Car à grande peine, vous ferez jamais autre chose que ce que nous voudrons. Si vous voulez être ici, en Occident, on vous mandera peut-être ailleurs. Puis là, il fait toutes sortes de réflexions sur le fait qu'ils seront obligés de changer d'endroit. Et puis, à cet exposé très concret du devoir d'obéissance, succède l'énoncé du but positif dans l'entrée en religion. Et il lui dit, « Beau frère, vous ne devez pas chercher la compagnie de la maison pour avoir seigneurie ni richesse. Hein? Il faut laisser le péché de ce monde. Il faut faire le service de notre Seigneur. Il lui dit qu'il faut être pauvre et faire pénitence pour sauver son âme. » Et la cérémonie de réception se poursuit comme ça en présence du chapitre qui renouvelle et précise l'engagement du moine chevalier pour conclure de façon significative, après avoir solennellement admis le postulant à tous les bienfaits de la maison. Vous aussi, vous nous accueillez en tous les bienfaits que vous avez faits et ferez, et vous aussi, nous vous promettons du pain et de l'eau et la pauvre robe de la maison, c'est-à-dire le costume. Hein? Puis le postulant, bon ben justement, il reçoit le manteau blanc à la croix rouge qu'on voit souvent, vous savez, dans les films, qui, depuis la date de 1145, désigne les chevaliers de l'ordre. Et la discipline est maintenue grâce au chapitre, l'assemblée des frères, qui doit se tenir chaque semaine dans toute commanderie, même si elle ne compte que 3 ou 4 frères. Parce qu'il y avait des petites commanderies. Hein? Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y en avait des milliers à travers l'Europe. Et les chevaliers, ben, revêtus de leur manteau, doivent s'y accuser des fautes commises contre la règle. Et éventuellement, celui qui a commis une faute doit être semoncé, doit être corrigé. Puis, il doit avouer ou se défendre en invoquant des témoignages contraires. De toute façon, il est prescrit de ne pas révéler ce qui a été dit. Ils sont tenus au secret. Mais il ne faut pas révéler ce que d'autres ont fait de pas correct, évidemment. Et les pénitences imposées ont fait l'objet d'un texte d'ailleurs tardif, composé vers 1260 à peu près, et les exemples cités montrent que les fautes les plus durement punies sont des fautes très graves. La simonie, c'est-à-dire le don d'argent ou d'autres choses pour le rentrer dans l'ordre. Un peu comme ce dont on parle au CIO, là, les gratifications de millions et pour pouvoir obtenir la participation aux Jeux olympiques. Comme vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on donne de l'argent pour obtenir quelque chose. Et ça existait, et on appelait ça dans l'Église la simonie. Il fallait pas être accusé de meurtre, de complot ou encore de fuite dans le combat. Il fallait être courageux. Il fallait pas être accusé de vol ou de larcin, comme on dit souvent, d'indiscrétion sur le chapitre. Il fallait pas révéler ce qui se passe dans les réunions. Il fallait pas avoir de délit sexuel. D'ailleurs, c'est très, très rare. Il y a un seul cas de viol légèrement puni, puis un cas de sodomie qui a été puni de la perte de la maison, c'est-à-dire celui qui a commis ça est exclu de l'ordre. Et c'est la peine la plus lourde. La plus lourde est exclue. Les autres peines vont d'un jeûne, etc., plus ou moins prolongé, puis à la perte de l'habit. Alors, c'est donc vraiment une congrégation religieuse, un ordre religieux. Et dans un livre composé en 1130, des Laudes Novae Militiae, Saint Bernard, le grand Saint Bernard, a dressé un beau portrait magnifique du pauvre chevalier du Christ, les Templiers, puis de la vie qu'il mène. Avant tout, dit-il, la discipline est constante et l'obéissance toujours respectée. On va et on vient au signal de celui qui a autorité. On est vêtu de ce qu'il a donné. On ne présume pas de chercher ailleurs nourriture et vêtements. Ils ont les cheveux coupés ras, jamais peignés, rarement lavés, le poil négligé et hirsute jamais. Sale de poussière, d'accord, la peau tannée par la chaleur et la cotte de maille. Ce chevalier du Christ est un croisé permanent, engagé dans un double combat, contre la chair et le sang, contre l'esprit du mal dans les cieux. Que les chevaliers résistent par la force de leur corps à des ennemis corporels. Je ne juge pas cela merveilleux, car je ne l'estime pas rare. Mais, dit Saint Bernard, qu'ils mènent la guerre par les forces de l'esprit contre les vices et les démons, je l'appellerai non seulement merveilleux, mais digne de toutes les louanges accordées aux religieux. Il continue ses éloges comme ça, puis il termine en disant, « Comme il est glorieux, votre retour de vainqueur au combat. Comme elle est bienheureuse, votre mort au martyr. » Au combat. Spiritualité bien particulière, évidemment, hein, des moines qui ont des armes. Puisque le droit canonique interdit aux religieux de verser le sang, hein, c'est défendu. Mais il faut bien comprendre, comme dit Régine Pernoud, la grande historienne, que les Templiers, mais c'est un ordre religieux, une association qui est née sous la pression des circonstances. Hein. Elle est justifiée par la défense du faible. C'est Jean de Salisbury, l'évêque de Chartres, un grand humaniste, qui remarque que le Templier est à peu près seul parmi les hommes à mener une guerre légitime. Une guerre légitime. Il ne s'agit pas, il faut bien le remarquer, de guerre sainte, comme celle des musulmans, pas du tout, mais de guerre juste, légitimée par son caractère défensif. Pour les rois de Jérusalem, l'ordre du Temple représentait évidemment une aide permanente. Puis il faut remarquer que, vers le même temps, les frères de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem, fondé une dizaine d'années avant la croisade, là, adoptent eux aussi une activité militaire, sans cesser pour autant leur activité hospitalière. Ce sont donc des gens de cœur, des gens qui veulent défendre les lieux saints et la possibilité pour les pèlerins d'Europe de se rendre sur les lieux saints en toute sécurité pour vénérer l'endroit où est mort Jésus, où il est ressuscité, où il a vécu, quoi. Détruire un ordre religieux, d'accord, qui était guerrier, mais qui rendait de grands services, et qui le faisait, autant que possible, de façon très honnête, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant les quelques 200 ans de leur existence, les Templiers, on prépare évidemment à toutes les actions menées dans le royaume latin, comme on dit, depuis la prise de Gaza, puis souvent question de Gaza depuis des années en Palestine, en Israël. Ils ont pris ça en 1149. Puis ils ont combattu jusqu'à la défense désespérée de Saint-Jean d'Acre en 1291. Et c'est là que s'est joué le dernier acte dans la maison du Temple, qui a tenu 10 jours. 10 jours à Saint-Jean d'Acre. Du 18 au 28 mai 1291, jusqu'à l'écroulement de la tour, qui avait été le dernier refuge des combattants de nos Templiers. Alors on les voit en 1148, plutôt, sous le commandement du maître Évrard des Barres, il sauve l'armée du roi de France, Louis VII, lors d'une grande périlleuse traversée des gorges de Pisidie en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. Ils sont présents aussi à l'extraordinaire victoire de Montgisard en 1177, qui a été remportée sur ce fameux musulman qui était Saladin. Et puis, ils ont été là, lors du désastre des cornes de Hattin. Vous connaissez peut-être ça dans l'histoire. Tout ça s'entraîne la perte de la ville sainte de Jérusalem en juillet 1187. Alors, aux 200, je fais grâce de toutes sortes d'autres événements, mais ça vous donne une idée de l'importance des combats qu'ils mènent. Aux 230 Templiers faits prisonniers, là, le 4 juillet 1187, on offre la vie sauve pourvu que ils consentent, ces chrétiens, ces soldats moines, à crier la loi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À se faire musulmans. C'est-à-dire de dire que Dieu, seul est Dieu, et Mahomet est son prophète. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pour nier la Trinité, comme si nous disions qu'il y avait trois dieux. C'est pas vrai. Alors, aucun de ces soldats moines, qui sont de fervents chrétiens, ne faiblit. Tous ont la tête tranchée par les musulmans. C'est donc une religion qui m'étonne toujours, ces musulmans. Dire qu'il y en a encore certains d'entre eux qui continuent de nos jours au Soudan puis ailleurs. Quand est-ce que tout ça va se terminer, grand Dieu? Mais les Templiers n'ont pas fait que ça, hein. Il faudrait ajouter à leur fait d'armes une extraordinaire activité de bâtisseurs. Ils ont été de grands bâtisseurs. En Terre Sainte d'abord, Hugues de Pins, dont je vous ai parlé, puis l'un de ses compagnons ont édifié une tour très importante entre Caïphe et Césarée. Ça, c'est le premier élément, je vous le mentionne, parce que c'est toute une série de constructions qui... Oh, ça va être au Liban, en Syrie, partout, c'est incroyable, en Arménie, en Occident, Portugal, en Espagne, sans parler des commanderies échelonnées dans toute l'Europe, y compris Paris et Londres. C'est immense. Alors, ça vous donne une idée du dynamisme de ces moines chevaliers, les Templiers. Et puis de l'emploi des ressources qui leur sont dispensées. On ne gaspille pas l'argent. On cherche à construire pour défendre le Christ. Étrange chose. C'est une conception qui nous est à peu près impossible de comprendre aujourd'hui. Mais si on se met dans leur esprit, on comprend. Ça donne une idée de l'immense puissance qu'ils ont acquise aux yeux des populations. Dans la seconde moitié, là, du 13e siècle, les Templiers sont devenus malheureusement impopulaires. Qu'est-ce qui leur arrive? On leur reproche leur orgueil. Ce que de nos jours, on nommerait sans doute le triomphalisme. Hein? Louis IX, le roi de France, lors de son séjour en Terre Sainte, a dû sévir contre le maître du Temple, coupable d'avoir noué des accords avec le vieux de la montagne, le redoutable chef de la secte des assassins. Comme ce qu'on appelle... C'est de là que vient le mot, d'ailleurs, assassin. C'est de cette secte, de cette tribu de musulmane, sans en avoir référé au roi. Et là... On leur reproche aussi leur richesse. Oh, elle est plus apparente que réelle. Puis, ils ont d'énormes frais que nécessite la construction puis l'entretien de leur forteresse. Il y a une grande part de l'argent qu'ils détiennent qui est mis chez eux en dépôt. Alors, ils deviennent comme des banquiers, les banquiers de l'Europe. Et c'est peu de temps après qu'éclate la nouvelle qui va stupéfier l'Occident. Le vendredi 13 octobre 1307, bien, tous les Templiers de France sont arrêtés dans leur commanderie. on l'a fait remarquer, il s'agit de l'une des opérations policières les plus extraordinaires de tous les temps. Qui a dit ça? C'est le duc de Lévis-Mirepoix, le fameux historien qui a publié beaucoup de livres au cours de ce siècle, livres d'histoire importants. Il en a écrit d'ailleurs sur les Templiers. Et l'ordre d'arrestation, donc, a été adressé un 14 septembre, le jour de l'exaltation de la Sainte-Croix. On dirait que ça s'est fait exprès. C'est sous forme de lettres closes qui sont adressées à des gens importants, les baillis, les sénéchaux, avec ordre de ne les ouvrir qu'au jour prescrit. Tous les frères doivent être arrêtés. Tous doivent être retenus prisonniers, sans exception aucune. Et tous leurs biens doivent être saisis. Aussitôt, un manifeste royal est diffusé dans Paris, le roi qui parle, selon des dénonciations dues à un citoyen du ton de Béziers dans le sud de la France, les Templiers seraient coupables de quoi? De choses épouvantables. Ils seraient coupables d'apostasie. Ils auraient apostasié le catholicisme. Ils auraient fait des outrages à la personne du Christ. Ils auraient pratiqué des rites obscènes, notamment lors de la réception de nouveaux frères. Ils auraient pratiqué la sodomie puis l'idolâtrie. C'est beaucoup, il me semble, beaucoup d'accusations. Alors, sans attendre, 138 prisonniers passent entre les mains des officiers du roi qui les interrogent en employant la torture au besoin, selon les instructions du roi, avant de subir l'interrogatoire d'un inquisiteur de France qui s'appelle Guillaume de Paris, qui se trouve être qui? C'est pas n'importe qui, cet inquisiteur, c'est un étrange personnage. C'est le confesseur du roi Philippe le Bel, puis c'est Philippe le Bel qui veut justement s'emparer de l'argent de la banque des Templiers. Il est de connivence, cet inquisiteur. Alors, 36 Templiers vont mourir des suites de ces tortures. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est toujours comme aujourd'hui. Tous ces gens qui meurent de torture à travers le monde. L'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'Amnesty International, nous luttons contre ça. Et entre-temps, bien, le roi a mis, évidemment, les princes et les prélats de la chrétienté au courant des raisons de cette arrestation massive. Il répand tous les bobards. Et puis, il n'y a rien que trois réponses favorables. Il y a un duc, un comte, puis l'archevêque de Cologne. Le roi d'Angleterre, lui, qui est catholique, hein, évidemment, à cette époque, tout le monde est catholique, Édouard II, il va en réponse écrire lui-même au roi de Castille, Aragon, Portugal et Sicile pour leur signaler que de telles accusations lui paraissent dictées par la calomnie et la cupidité. Alors encore l'Angleterre qui, comme aujourd'hui, l'Angleterre qui cherche l'intégrité par rapport à Pinochet, eh bien voilà que le roi d'Angleterre essaie d'être honnête et vrai. Et le pape Clément V, le premier pape d'Avignon, un Français d'ailleurs, né à Villandreau, c'est un petit village de Gironde, il y a à peine 1000 habitants aujourd'hui, ça. Eh bien, le pape Clément V, donc premier pape, les papes étaient à Avignon, avaient quitté Rome, adresse dès le 23 octobre une lettre de protestation au roi Philippe le Bel. Il veut défendre les Templiers, mais il est tellement soumis au roi qu'il y a bien de la misère. Hein. Alors, après la réunion d'un consistoire, il va cependant par une bulle ordonner à tous les princes de la chrétienté d'arrêter les Templiers dans leurs états, expliquant que les aveux faits par les Templiers de France lui ont été confirmés par certains Templiers qui sont en service à la curie. Il y a un procès ecclésiastique qui leur sera fait, dit-il, pour en préciser le bien fondé. Et finalement, bien, les pauvres sont accusés de façon tragique, épouvantable. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, le 25 mars 1308, le roi convoque à Tours, en France, les États généraux, et la convocation renouvelle les accusations dont les Templiers sont chargés. Et là, deux mois plus tard, ben, l'Assemblée de Tours adresse une supplique au pape pour qu'il soit procédé contre eux sans délai. Un autre texte intitulé « Remontrance du peuple de France » reproche au pape sa lenteur. En termes menaçants, voyez-vous, il est lent. C'est qu'il veut pas, mais il peut pas, il est soumis, il est sous la juridiction de ce roi terrible, Philippe le Bel. Un peu comme les évêques en Allemagne étaient dans un ou les évêques en Russie, vous savez combien sont morts. C'est terrible. Ou en Chine. Alors Philippe le Bel va ensuite trouver le pape à Poitiers le 26 mai, puis il le presse de réunir tout de suite un consistoire qui est tenu en sa présence et où l'un de ses légistes, un vendu, quoi, Guillaume de Plessian, prononce un violent réquisitoire contre l'ordre des Templiers, puis par la suite, le roi accepte de se dessaisir des personnes des Templiers tout en gardant sa mainmise sur leurs biens, les biens. C'est ça qu'il veut, l'argent. Et par la suite, le pape décide bien d'instituer des commissions dans chaque diocèse pour interroger les Templiers. Mais entre-temps, les commissaires ont entendu le commandeur de Pince, dont la déposition est accablante en ce qui concerne les tortures subies par les Templiers. Les Templiers, pourtant, organisent leur défense. Ils désignent 4 délégués pour les représenter. Ils rédigent une déclaration pour protester contre les traitements subis. C'est terrible. Et ce sont des gens abominables. C'est quelqu'un qui est très près du roi Philippe le Bel, qui condamne au bûcher tous ces gens-là. 54 Templiers qui sont revenus sur leurs aveux, dit-on, et prévenus la veille par les délégués, les commissaires pontificaux se sont dérobés. Mais les commissaires qui viennent du pape se sont dérobés. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils vont déclarer clos leurs travaux, ne s'étant réunis entre-temps qu'une seule fois. Et puis là, bien, il y a des Templiers qui veulent se défendre. L'ensemble des cardinaux, note un observateur du temps, demande que les Templiers soient admis à se défendre. Les cardinaux prennent la défense des Templiers, mais rien à faire, rien à faire. Le 17 février 1312, différents conseillers de Philippe le Bel font leur entrée au concile et le roi lui-même y vient et exige la suppression de l'ordre. Et puis, la suppression est prononcée le surlendemain, le 22 mars 1312. Et là, les événements se succèdent et on condamne 4 dignitaires à la prison perpétuelle. Et on voit alors se lever Jacques de Molay et Geoffroy de Charny. Souvenez-vous de ce nom. Geoffroy de Charny, c'est un nom qu'on retrouve autour du Saint-Suaire de Turin. Lui, il est précepteur de Normandie. Alors, ils protestent. Et puis, ils disent bien que leur seul crime a été de faire des aveux sous la torture. Alors, on les condamne à mort. On les exécute en plein cœur de Paris. Ils demandent seulement à pouvoir tourner leur visage vers la cathédrale Notre-Dame, parce que les bûchers étaient dressés sur le pont Neuf, à Paris, là, à peu près à l'endroit où se dresse la statue de Henri IV. Et là, bien, ça sert à rien de vous raconter tout ça, je vous en reparlerai. C'est terrible, il y a toutes sortes d'affabulations qui ont tourné autour de l'ordre. Et les moyens employés par le roi et ses comparses annoncent évidemment tous les moyens qu'on utilise de nos jours pour condamner les méthodes policières, les campagnes de propagande, les procès avec emploi de la torture, les interventions brutales. Et quant aux accusations, ben, ce sont celles que le roi et ses comparses ont utilisées dans la plupart des affaires durant leur règne. On accuse d'hérésie, et puis on utilise les tribunaux de l'Inquisition, on force les tribunaux d'Inquisition à condamner sous peine de toutes sortes de choses. Alors on les accuse de sodomie, de pratiques obscènes, de sacrilèges. Et le tout, ben, c'est poursuivi avec ce roi Philippe le Bel. Ça atteint son comble quand, en 1314, la même année, il a condamné ses 3 belles filles puis leurs amants supposés parce qu'il voulait se débarrasser de ses 3 belles filles. Comment changer tout ça? Si ce n'est que par une fidélité profonde à l'Évangile, mais ce roi Philippe le Bel était un homme abominable. Quand on pense aux Templiers, on peut penser au Saint-Suaire de Turin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'ailleurs, dans un ouvrage retentissant à l'époque, il y a une vingtaine d'années, Le Suaire de Turin, écrit par Ian Wilson. Ian Wilson, qui est un licencié d'histoire de l'Université d'Oxford, un journaliste sérieux, il était président de la British Society for the Turin Shroud, c'est-à-dire président de la Société britannique pour le Suaire de Turin. Et Il en parle très, très longuement. Bon, ça peut pas se résumer, c'est peut-être 100 pages. Très intéressant. Et c'était résumé assez bien par Kenneth Stevenson puis Gary Habermas, deux Américains, dans leur ouvrage retentissant lui aussi, « La vérité sur le sueur de Turin » paru peu de temps après l'autre. Or, la disparition du linceul en 1204 lors de la conquête de Constantinople par les croisés, puis sa mystérieuse apparition en France en 1357, soit 150 ans plus tard, eh bien, on ne sait rien de très précis sur ce qui s'est passé entre 1204 puis 1357. Vraisemblablement, les Templiers. Oui, Ian Wilson propose une hypothèse intéressante. Selon lui, de 1204 jusqu'au début du 14e siècle, le Suaire était en possession de la plus mystérieuse confrérie de l'Église médiévale, les Templiers. Les Templiers, je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas à l'écoute au début, étaient un ordre religieux de chevaliers, fondé 80 ans environ avant le sac de Constantinople, dans le but de défendre les territoires des croisés en Terre Sainte. Ces Templiers attirent de puissants amis puis des membres qui sont vraiment nobles, car ils associent les deux grandes passions du Moyen-Âge, la ferveur religieuse, puis les prouesses guerrières des chevaliers. Les membres de l'ordre font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, puis leur courage à la bataille est légendaire. Ils font vœu de ne jamais battre en retraite. Ils ont défendu les territoires des croisés, particulièrement la Terre Sainte, avec une grande bravoure, contre les musulmans qui avaient conquis depuis 450 ans ces territoires et faisaient beaucoup de difficultés aux pèlerins qui venaient d'Europe, car les pèlerins chrétiens, à cette époque, tenaient beaucoup, un peu comme les musulmans aujourd'hui font des pèlerinages à la Mecque, eh bien nous faisions des pèlerinages au sépulcre de Jésus. Les musulmans peuvent comprendre ça, eux qui sont tellement attachés à ce pèlerinage à la Mecque qu'il faut qu'ils le fassent une fois dans leur vie. C'était un peu la même chose pour les chrétiens à l'époque, par rapport au sépulcre. Et au moment du sac de Constantinople en 1204, ils sont déjà devenus très puissants. Ils construisent, comme je vous ai dit, des forteresses imprenables en Terre Sainte et en Europe. Mais souvent, les princes et les grands de ce monde troublé, là, confient leurs objets de valeur aux Templiers pour qu'ils les gardent, ils deviennent comme des banquiers. Parmi ces biens précieux, il y avait de nombreuses reliques. Et les Templiers sont indiscutablement assez puissants et assez motivés pour sauvegarder une relique comme le suaire de Turin. C'est sûr, ils sont aussi capables de l'acquérir à cause de leur immense fortune, puis de le préserver parce qu'ils sont pas tentés de le vendre. Et ils ont assez d'argent. Puis de toute façon, ils sont nobles et pieux, ces chevaliers. Ils l'ont honoré sans doute, ce linceul. Et alors, les Templiers ont acquis le suaire et ils l'ont gardé pendant 150 ans. Mais est-ce bien vrai? En tous les cas, c'est très, très possible, c'est probablement ça, parce que les preuves sont indirectes, même fragmentaires, elles sont tirées du silence historique, le plus faible de tous les arguments historiques, d'accord. Mais si le suaire est resté dissimulé pendant 150 ans en Europe et au Proche-Orient, alors les Templiers, si secrets, étaient bien le seul groupe qui aurait pu le cacher. Et un indice intéressant surgit des rumeurs qui circulaient au 13e siècle sur leur rite d'initiation. C'était secret, puis leurs offices religieux aussi. Et aujourd'hui encore, on débat de ce que pouvait se passer lors de ces réunions mystérieuses. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Les ennemis des Templiers, fort nombreux, les ont accusés de toutes sortes de péchés, comme de cracher sur la croix, de nier le Christ, d'apostasier quoi, de pratiquer la sodomie et d'adorer les idoles. D'adorer des idoles, peut-être parce qu'ils s'inclinaient justement devant le linceul. La plupart des érudits estiment que ces accusations, évidemment, sont sans fondement, comme Régine Pernoud n'y croit pas du tout. Les Templiers étaient de bons chrétiens, qui ont servi admirablement l'Église. Mais il peut avoir existé des coutumes dans leur rite d'initiation puis leurs offices, que des gens ont pu interpréter comme de l'idolâtrie. On disait d'ailleurs qu'au cours de leur cérémonie, ils adoraient, écoutez bien, une mystérieuse tête. Mais au cours de leur initiation, et qui avait généralement lieu près d'une reproduction du tombeau du Christ, eh bien, le Templier recevait, là, un manteau blanc, comme je vous ai dit, frappé d'une croix rouge, Ça symbolisait le corps crucifié de Jésus et selon Ian Wilson, une cérémonie spéciale était réservée aux membres initiés de l'ordre, par laquelle ils apercevaient momentanément une vision suprême de Dieu, pouvant être obtenue sur la terre, devant laquelle ils se prosternaient en adoration. Hein? Fin de la citation. Mais cette vision, était-elle le suaire? L'indication de cette possibilité se trouve dans une peinture qui a été découverte en 1951 dans une ruine des Templiers, je dis bien une ruine des Templiers, en Angleterre, au village de Templecombe. Et on a vu des reproductions de ça dans des livres. Hein. Ce tableau ressemble aux copies byzantines du linceul avant 1204, et on l'appelait à l'époque le mandilion. Ça concorde aussi avec certaines descriptions vagues de la tête, qui jouait un rôle si important dans l'initiation puis les rites des Templiers. Le 13 octobre 1304, le roi de France, Philippe le Bel, là, dont je vous ai parlé, ennemi des Templiers, a supprimé l'ordre. Le grand maître Jacques de Molay puis un de ses compagnons ont refusé, je vous l'ai dit, de faire acte de contrition. Et puis, on raconte que Molay, en mourant, appela le jugement de Dieu sur le roi Philippe, puis le pape qui avait été trop mou, qui avait donné son accord. Or, il advint que tous les deux sont morts dans l'année. Ça peut intéresser certaines personnes. De toute façon, le compagnon de Molay, sur le bûcher, je vous l'ai dit, était le maître des Templiers de Normandie, s'appelait Geoffroy de Charnay. Or, ce nom rappelle fort celui du premier propriétaire connu du suaire, Geoffroy de Charny de Liré, en Champagne. Et à l'époque médiévale, on le sait, aussi bien qu'au 17e et 18e siècle ici au Québec, l'orthographe des noms propres était fantaisiste. Alors, au lieu de charner, on a charni. Bah, manque une lettre. Ça n'a pas d'importance. Il est tout à fait possible que ce Geoffroy de Charnay, le Templier, soit de la même famille que Geoffroy de Charny, qui se trouva mystérieusement en possession du suaire vers 1350. Le linceul était plié en quatre. On ne voyait que la tête. C'était l'image de Dieu. Et comme dit Paul Claudel au 20e siècle, c'est le portrait de Dieu. Et c'est de là que vient la légende du voile de Véronique. Et on racontait que Véronique, une femme pieuse de Jérusalem, s'était précipitée dans la rue, alors que Jésus était conduit au calvaire et lui aurait offert son voile pour essuyer sa figure ruisselante de sueur et de sang. Et en le reprenant, elle aurait constaté que ses traits étaient restés miraculeusement imprimés sur la toile. Le nom de Véronique nous montre bien l'origine de la légende. Véra signifie vrai et icône veut dire ressemblance. C'était ainsi que l'image était décrite il y a très longtemps. Une vraie ressemblance dans des vieux textes d'il y a plus de 1500 ans. Une image qui n'était pas produite par des mains humaines. On pourrait invoquer cette pseudo-Sainte Véronique pour invoquer en même temps tous ceux qui ont eu une grande vénération pour le linceul à travers les siècles. Et prier aussi pour ces martyrs que sont ces Templiers qui ont été tués de façon abominable. Pour qu'ils nous donnent le courage, ici au Québec, de nous tenir debout devant les événements difficiles et de ne jamais trahir notre foi.